Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Avis de valeur est une émission à part. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet de vive actualité. Ça, on n'est pas les seuls à le faire, mais on essaie vraiment de coller aux préoccupations du public, de l'opinion. On va parler du recul de l'investissement locatif. Et oui, figurez-vous qu'il y a des indices en ce premier quadrimestre de 2021. On va diagnostiquer et bien sûr imaginer des remèdes. Et émission à part parce que on y fait s'y croiser. Deux regards. Le regard de quelqu'un qui est sur le terrain, ça n'empêche pas aussi d'avoir des responsabilités. Puis le regard d'un gradé, de quelqu'un qui a des responsabilités souvent syndicales. Avec nous aujourd'hui, l'un à mon côté, physiquement à mon côté, c'est Bruno Taltavul, que je remercie beaucoup. Il est chez CAFPI, responsable du financement de l'investissement. C'est un service qu'il a créé, d'ailleurs. Et puis, il est sur le terrain. Hein, voilà, il est à la tête d'une agence qui reçoit des clients pour répondre à ces problématiques-là. Et face à lui, mais pas physiquement, parce qu'elle est dans un pays qu'elle aime, où elle est souvent en Auvergne, Céline Menck. Elle est l'une des responsables d'Anacofi Immo, le syndicat qui rassemble les conseils en gestion de patrimoine indépendant spécialisés dans l'immobilier. Et elle est elle-même conseillère en gestion de patrimoine indépendant à la tête du cabinet Eden Finance qu'elle a créé. Voilà, donc je remercie l'un et l'autre d'être pour l'une un peu plus loin de nous. Je le regrette, mais à la fois je trouve ça très bien qu'on puisse avoir des voix qui se portent de région, voilà, de province, comme on disait à une époque, qu'on ne soit pas tous comme ça dans l'entre-soi parisien. Et puis ravi aussi d'avoir à mon côté Bruno. Pourquoi parler d'investissement locatif aujourd'hui et de baisse de l'investissement locatif? On approfondit le sujet.
Avis de valeur, la rumeur d'Henri.
On va commencer par donner deux repères des temps passés. 2019, 2018... Deux chiffres. Si on parle de l'investissement locatif dans le neuf, des records avec 70 000 opérations faites par des particuliers, par des ménages qui ont acheté avec pour la plupart un régime fiscal très favorable, hein, le dispositif Pinel, un logement pour le louer et du même coup réduire d'ailleurs leurs impôts. Donc de très beaux chiffres relatifs au logement neuf et dans le logement ancien, il faudrait dire existant, des performances aussi hors normes avec allez, quelque chose comme 15, 16, 18% de l'ensemble des opérations qui ont été dédiées à l'achat de logements pour les louer. Ça signifie en 2019 probablement 150 000 logements locatifs qui ont été achetés et encore un petit peu plus en 2018. Donc voilà, deux très belles années. Et puis voilà que avec cette parenthèse très particulière hein, de l'année Covid, on se retrouve au début de 2021 avec des performances nettement en baisse, qu'on parle de neuf ou d'ancien. Dans le neuf, on s'achemine vers une année 2021, probablement avec au maximum 35 ou 40 000 opérations de défiscalisation hein, à des fins locatives. Et dans le logement ancien, on est en train de chuter. Ce sont d'ailleurs des chiffres de CAFPI qui nous l'ont révélé. On était ces dernières semaines plutôt à hauteur de 12% de la totalité des achats. Ça donnera probablement 100, 110 ou 120 000 logements locatifs, là où nous en avions beaucoup plus. Voilà, alors on va se demander pourquoi, et on le fait dans cette émission aussi d'une manière très concrète. On palpe le pouls de l'opinion. On va se demander dans la rue quelle est d'abord l'intention des Français en matière d'investissement locatif, puis on approfondira le sujet.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Bonjour, seriez-vous prêt à acheter un logement pour le louer ?
Bonjour, j'ai déjà acheté un studio l'année dernière que je loue. Et du coup, ça se passe très bien. Effectivement, on est dans une période un peu compliquée. J'espère que le locataire va rester en place.
Ah oui, complètement. Ça fait partie des plans des prochaines années, bien sûr.
Tout à fait, c'est quelque chose sur laquelle je pense en ce moment. Et en fait, malheureusement, je fais partie d'un milieu de la restauration et c'est assez compliqué en ce moment. En fait, c'est vraiment en projet. On a tous les éléments pour, mais on a eu un retour assez négatif des banques vu la période qu'on traverse en ce moment.
Bon, les dés sont jetés, les choses sont claires, en tout cas les personnes que notre réalisatrice Charlotte Ecker a rencontrées ont une appétence à l'investissement locatif. Chacun de votre point de vue, on va commencer par Bruno, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Début d'année très particulière, avec des inquiétudes, certaines se sont déjà fait jour hein, dans le micro-trottoir, des inquiétudes qui peuvent être personnelles, parce qu'on a arrêté son activité, qu'on a été empêché de travailler, c'est le cas des restaurateurs, parce qu'on a ralenti le rythme, on a un peu moins gagné, on ne sait pas trop où on va. Qu'est-ce qu'il en reste en matière d'intention d'investissement locatif du point de vue de CAFPI, qui est le leader du financement de l'immobilier en France ?
Alors nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a toujours une belle appétence à investir sur l'immobilier de location. Moi, je peux parler plus particulièrement du neuf, puisqu'on traite, nous, au sein du département financement des investisseurs de CAFPI, à peu près 90% de notre activité pour le financement des biens neufs et une grosse part de cela au travers de Pinel. On voit des gens qui sont...
Les 10% qui restent, c'est de l'ancien.
Ah oui, c'est de l'ancien. Bon, voilà. C'est de l'ancien, tout à fait. Alors oui, on a une forte demande. Nous, on fait beaucoup de... On travaille très peu en direct avec le particulier. On travaille plutôt avec les conseils de gestion de patrimoine ou les promoteurs ou les sociétés commerciales qui vendent.
D'accord.
Nous demandent de financer leurs clients. Il y a beaucoup de clients. Il y a toujours, et surtout en début d'année, comme vous l'aviez fait remarquer... des restrictions au niveau des banquiers, malgré cet engouement à vouloir acheter de l'immobilier.
Alors, on va y revenir. En tout cas, vous, les flux, c'est pas très joli, hein, mais appelons les choses comme il faut le faire dans une activité commerciale, les flux de clients entrants, ils sont là. Et vous ne ressentez pas de baisse de pression par rapport au début de l'année 2020, par exemple, on était hors Covid, hein, le premier trimestre, ou par rapport à 2019 ?
Non. Alors, début 2020, ça avait commencé très fort avec beaucoup, beaucoup de demandes. Et puis, le Covid est arrivé, cette crise. Et effectivement, on a quand même une baisse des demandes de prêts immobiliers pour le financement de biens locatifs.
Alors, bon, une légère baisse.
Relativement,
on va dire les choses exactement comme elles sont. Céline, c'est à la fois à la conseillère en gestion de patrimoine que je m'adresse et aussi à celle qui a une vision un peu plus panoramique hein, grâce au syndicat, au sein duquel tu as des responsabilités. Mais qu'est-ce qu'on ressent qu'on parle d'investissement locatif neuf ou ancien dans la rue, on n'a pas demandé aux personnes qui nous répondaient de distinguer, mais il y a bel et bien deux marchés. Je l'ai dit, hein, le plus important, c'est celui de l'ancien, quantitativement. Et puis, bien sûr, la défiscalisation est une réalité très forte dans notre pays. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, presque à l'issue du premier quadrimestre 2021 ?
Le français a toujours une pierre dans le ventre. Hein. Il y a vraiment une appétence réelle et profonde, notamment parce que le français, en général, n'a pas une culture financière suffisante. Et donc, il a bien conscience que pour sa retraite, il faudra qu'il fasse un certain nombre de choses. Et il met sur le même plan, globalement, ça évolue un petit peu en 2020. Hein. Ça commence là sous l'effet Covid, justement. Et donc, il a, selon lui, trois produits à sa disposition qu'il juge strictement équivalents. C'est le livret A, le contrat d'assurance vie fonds euro et l'immobilier. Et donc, quand il compare ces trois produits, qui dans sa tête sont comparables, il voit que l'immobilier reste lui, même avec la hausse des prix, etc., qui garde la meilleure rentabilité et qui est sûr pour lui. Donc, il continue à avoir cette appétence pour l'immobilier. Ce qui s'est passé, il y en a quelques-uns qui sont un peu en attentisme. Alors, il y avait le est-ce que les prix de l'immobilier vont enfin baisser ? Là, je pense qu'ils ont compris qu'il n'allait pas y avoir un effondrement des prix de l'immobilier tout de suite.
C'est très clair.
Et voilà. Et la deuxième chose,
voir des hausses dans certaines villes moyennes, hein, on le constate déjà. Et tant mieux pour ces villes-là.
Je pense qu'on va y venir par rapport à la à l'offre et à la demande, ce rapport-là qui va peut-être évoluer de façon problématique là, dans les mois qui viennent. Et puis la deuxième raison d'attentisme, c'était un peu effectivement qu'est-ce que mes revenus vont donner, mes revenus professionnels, suivant dans la branche où ils étaient. Mais oui, il y a de l'appétence réelle pour de l'immobilier. Parce que l'immobilier est riche de solutions en même temps.
Encore un mot avant de revenir vers l'opinion et de mesurer les freins que les personnes ont dans leur tête, au moins, sinon dans la réalité. Entre neuf et ancien, un petit mot sur l'appétence des ménages que tu as amené à conseiller. La défiscalisation, évidemment, est très puissante dans le neuf. Ça veut dire que le neuf, spontanément, plaît davantage pour l'investissement locatif ?
Non, je dirais que le neuf a globalement une lecture plus facile pour un primo-investisseur. Pour ce que j'appelle un serial investisseur, on va dire quelqu'un qui a fait plusieurs investissements, il va être plus capable de se projeter, par exemple, sur des biens où il y aurait des travaux à faire ou dont la loi fiscale agissant en déduction ou en réduction serait un petit peu plus complexe.
D'accord.
Et puis surtout, ils n'ont pas les mêmes profils. Investir dans l'ancien avec du déficit foncier pour un primo-investisseur, ça peut avoir moins de...
D'accord, c'est très clair. On distingue effectivement entre le primo-investisseur et celui qui est déjà patrimonialement plus avancé dans son parcours.
La fiscalité.
Et suivant bien sûr sa situation fiscale. On revient dans la rue pour demander à nos compatriotes, comme dirait le président Macron, ce qu'ils pensent des freins.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Qu'est-ce qui vous semblerait le plus difficile pour réussir à réaliser un prochain investissement ? Quelles sont vos craintes ?
C'est vrai que on a une crainte aujourd'hui qui est bancaire. Je pense que de ce que moi j'ai entendu je me suis un petit peu renseigné, les banques demandent un peu plus d'apport que précédemment. On parle de 15 à 20% d'apport. Et les durées de crédit sont normalement un petit peu raccourcies. Enfin, c'est ce que mon banquier m'a dit.
Alors, je pense que ça serait d'obtenir l'aval des banques. Vu la situation Covid aujourd'hui, elles sont plus réticentes. Donc, je pense que ça jouerait plus sur l'aspect financier et obtention de prêts immobiliers.
À l'heure actuelle, je pense qu'il y a aussi le fait de récupérer de l'apport. Forcément, ça c'est important, c'est toujours trouver le bon équilibre entre apport et l'emprunt qu'on va faire. Et c'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est tout simplement trouver un accord avec les banques en ce moment, c'est que ça soit au mieux pour tout le monde, que tout le monde soit gagnant, et toujours en vue de la période qu'on traverse en ce moment, c'est ça surtout, c'est l'accord avec les banques.
Bon Bruno, il fallait s'y attendre, hein, la question du financement est centrale. Tout à l'heure, on a entendu qu'il pouvait y avoir d'autres craintes, ces lignes revenus, ça pouvait être bien sûr ses propres revenus, mais aussi des impayés. Hein, on creusera ce sujet important. Mais en première approche, est-ce que je vais passer la barre du financement ? Sans ça, je ne risque pas de faire un investissement locatif. Alors, on en est où ? Sans langue de bois, ça je ne l'ai pas précisé, mais enfin, ceux qui me connaissent le savent. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins, ce n'est pas le cas de CAFPI, qui est très, très transparent hein, dans son observatoire, mais on parle moins de cette plus grande difficulté à obtenir un financement quand on est un investisseur. Il y a eu les critères du Haut Conseil de stabilité financière, les fameux 33% maximum d'endettement. Comment sont pris en compte les revenus locatifs à venir ? Qu'est-ce qui se passe au pays de l'investissement locatif par rapport aux banques aujourd'hui ? Qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien, s'il faut distinguer, je vous laisse le faire.
Non, alors pour le neuf et l'ancien, c'est à peu près pareil au niveau des critères. On constate effectivement, comme disaient les personnes interrogées dans la rue, que les durées de prêts ont tendance à diminuer. Il y a certains banquiers qui nous demandent de présenter des dossiers 20 ans tout compris, donc 20 ans y compris la période de construction. D'autres qui nous demandent d'envoyer des dossiers avec de l'apport, au moins les frais de notaire, et parfois les frais de notaire plus 10%.
Donc oui. On n'est pas loin des 20% dont parlait ce monsieur dans la rue. Hein.
Alors non, puisque les frais de notaire dans le neuf, je parle surtout
dans
du neuf.
Dans le neuf, ils sont réduits.
Voilà, ils sont réduits. Mais oui, on a des critères qui se durcissent. Et ça, on le voit depuis même avant la crise du Covid, depuis le début 2020. Et je pense que c'est parce qu'il y a une très, très forte demande de prêts immobiliers. Ce que je dis toujours, moi, à mes partenaires et mes clients, a priori, il y a plus de demandes que d'offres, donc les critères se, se resserre et c'est plus compliqué pour les investisseurs.
Alors, on rappellera que les critères du Haut Conseil de stabilité financière, hein, les fameux 33%, mais des durées moindres aussi, hein, oui. maximum 25 ans, ça a été précisé. Un apport personnel souhaitable, tout ça c'est dans les critères, ça date de novembre 2019. Hein, oui. Donc en effet, c'était avant la crise du Covid. Comment sont pris en compte les revenus locatifs? Ça, c'est une grande question aussi. Je dis d'une phrase pourquoi je pose la question, elle est peut-être évidente. Lorsque je vais m'endetter pour acheter un logement locatif, ça veut dire que je vais faire rentrer des revenus locatifs. Ouais. Hein, ce n'est pas en pure perte. Donc comment sont-ils comptabilisés dans mon équation de revenus personnels?
Alors pour tous les banquiers, il y a une décote au niveau des revenus locatifs à venir, et même des revenus locatifs existants. Ils appliquent une décote à peu près une décote de 20% environ, 20 ou 30%.
D'accord.
Ça veut dire qu'on va tenir compte de 70% en moyenne des revenus locatifs que va percevoir l'investisseur.
Alors, des revenus à venir, si je n'ai pas encore de revenus locatifs, ils sont forcément devant moi.
Oui, tout à fait. Alors, à venir ou existants, parce qu'on a oui. des locataires qui sont déjà... des investisseurs qui sont déjà propriétaires de...
Des serial investisseurs, comme disait Céline. Voilà.
Voilà. Mais le plus important, c'est pas ça, parce qu'entre un abattement de 20% ou 30%, ça ne va pas jouer beaucoup. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces revenus locatifs? Alors là, il y a deux écoles. Enfin, il y a plutôt une grande école maintenant qui dit, nous, les revenus locatifs, on va les pondérer, on va les ajouter aux revenus du travail de l'emprunteur.
Ça, c'est l'idéal?
Non.
Non?
Non. L'idéal, ça serait, alors ce qu'on a, nous, avec certains de nos partenaires bancaires, qui acceptent de calculer de la sorte, c'est-à-dire toujours pondérer ces revenus locatifs, mais au lieu de les ajouter aux revenus du travail, on va venir les déduire des charges. Donc on va appliquer ce qu'on appelle un calcul en différentiel.
D'accord.
Qui n'a rien à voir au niveau de l'endettement. On va gagner facilement entre 5 et 10 points d'endettement. Sur le résultat final, la présentation aux banques.
Aujourd'hui, sur 10 établissements financiers, combien sont sur la première méthode et combien sont sur la deuxième?
On a 90% sur la première méthode et à peine 10% sur...
Alors, on va en parler, c'est aussi votre valeur ajoutée, hein, cette ingénierie financière.
Oui.
Très bien, d'accord. En termes de taux, les investisseurs sont bien traités par rapport aux accédants. On parle de taux très, très, très bas aujourd'hui, hein, on le sait, sur des durées de 15 ans. On est à combien? On est en dessous de...
15 ans, on est aux alentours de 0,7.
Voilà, 0,7. Les investisseurs ont droit à ça?
Oui, tout à fait.
D'accord. Ouais. Céline, le regard sur la question de l'investissement, de ton point de vue aujourd'hui? Est-ce que là, le financement est un frein, alors a priori, qui peut-être dissuade certains de tes clients, ou est-ce qu'ici risque, on va vite arriver à la troisième question d'ailleurs, sûrement en étant aidé, en étant accompagné par toi, par un courtier, mais est-ce que c'est un frein?
Alors, globalement, les clients, effectivement, quand ils sont accompagnés par un CGP, ils n'ont pas forcément d'autocensure comme un investisseur seul pourrait l'avoir. D'un point de vue syndical, par rapport aux recommandations du Haut Conseil de sécurité financière qui vont devenir contraignantes là très vite, nous, on essaye...
Au 1er juillet, on peut le dire, au 1er juillet, on ne rigole plus, là, si je puis dire.
De faire des recommandations. Alors, en janvier, le Haut Conseil a reformulé et surtout, il a redéfini un certain nombre de choses. Donc, on est passé de 33 à 35% d'endettement, sans parler des dérogations. Hein. On est passé à 25 ans, plus 2 ans possibles en plus, donc pour monter à 27, s'il y avait notamment les intérêts intercalaires dans le cadre d'un financement différé.
La période de construction qu'évoquait Bruno.
Voilà. Il parle effectivement de la prise en compte... prorata des futurs revenus locatifs. Là, on est en train de réfléchir à ce qui serait souhaitable que le Haut Conseil se positionne un peu plus fermement sur, mettons, 80% pour toutes les banques et pas, encore une fois, la libre pensée de la banque entre...
Oui, qui est une règle
60,
plus
70,
établie.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà.
D'accord.
Et puis surtout, une chose qui nous a semblé extrêmement intéressante, c'est que le Haut Conseil n'écarte pas du tout, bien au contraire, la possibilité pour les banques de prendre en compte le gain fiscal issu
D'accord.
Donc, d'un investissement. Or, ce n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui, ce qui ne paraît pas très logique. D'ailleurs, si on prend les charges, on devrait prendre ce gain fiscal. Donc, voilà, il y a ce travail-là. Après, ce que je peux dire, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des problématiques de financement sur certaines catégories de biens. Puisque en gestion de patrimoine, on peut aussi être amené à faire investir nos clients sur différents supports et pas que sur de l'habitation, enfin, direct.
On a des problèmes sur les SCPI, non, aujourd'hui. C'est très difficile sur les SCPI, c'est ce que j'entends.
Les SCPI, depuis qu'on a pu le crédit foncier, c'est globalement compliqué.
Ouais,
et alors, moi, les gens qui me disent « Non, non, mais on a une solution », quand on me dit qu'on demande le nantissement de la totalité du financement à côté, moi, je n'appelle pas ça une solution.
Bien sûr. La solution, ce n'est pas de ne financer que la SCPI de la banque contactée. Hein, c'est pas non plus ça, hein, voilà.
C'est une autre problématique. Non, mais quand je parlais des problématiques de support de financement, je faisais notamment allusion aux loueurs en meublé, aux résidences de tourisme, par exemple.
D'accord.
Les investissements de défisc, Sensi-Bouvard, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas financés en tourisme. Les banques n'y vont pas.
Point important. Autre question, est-ce que la sécurisation des revenus locatifs est une exigence déguisée, elle ne peut pas être juridique, mais des banques, est-ce que c'est le réflexe naturel d'ailleurs de l'investisseur que de dire « moi je vais sécuriser, je vais prendre une garantie contre les impayés de loyer », ça se voit beaucoup dans le logement neuf, ça se voit beaucoup moins dans le logement ancien. Céline.
Alors là-dessus, je t'avouerai que j'ai moins de retours d'expérience, j'ai pas notion que les banques... Alors, peut-être parce qu'on ne le propose pas dans les dossiers, du coup, hein, enfin, à ce niveau-là, en tout cas.
Alors,
de la demande de financement, on n'a pas l'outil.
Bruno, en une phrase là-dessus, avant qu'on passe à la séquence.
On a beaucoup de CGP qui vendent avec cette garantie quasiment systématiquement.
Donc, la question ne se pose même pas.
Non,
c'est packagé, disons.
C'est packagé. Enfin, c'est une option supplémentaire.
Oui, mais.
Les banquiers ne sont pas complètement attachés à ça, mais ils aiment bien avoir des dossiers avec une garantie de bon paiement des loyers.
De vous à moi, il y a une logique quand même, parce que
oui.
la crainte de l'impayé, on l'a entendu tout à l'heure, en 2021, avec la crise économique et sociale qu'on connaît, elle n'est pas infondée. Et c'est quand même bien de se dire, de toute façon, je vais percevoir le loyer et pouvoir rembourser mon banquier.
Oui, oui, tout à fait. C'est une garantie en plus pour le banquier. Donc oui, je pense qu'elle est fondée, surtout que le banquier, aujourd'hui, même s'il finance de moins en moins tout, mais il prend quand même vraiment le risque sur le financement puisqu'on fait beaucoup, beaucoup de surfinancement.
Vous conseillez, vous, ce produit, si je suis acquéreur dans l'ancien et qu'on ne m'a pas forcément fait cette offre, c'est un échange que vous avez avec le client ou pas, très, très franchement hein.
Alors la carence locative, non.
D'accord.
Parce qu'on sait que quand on a des biens de qualité bien placés, c'est
ils
loué.
Seront loués, on
ils
est d'accord.
Loués. Après, le loyer impayé, bah oui, on peut toujours avoir un problème avec son locataire.
D'accord.
Donc oui, je pense que c'est dans le cadre de la construction d'un patrimoine. Et surtout pour les jeunes, c'est... Oui, je serais plutôt pour la conseiller.
Dans la rue, on va demander aux ménages qui, selon eux, pourraient lever les freins, leur faciliter l'investissement locatif.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
À qui feriez-vous confiance pour vous accompagner dans un éventuel prochain investissement locatif ?
Bah, je dirais que moi, je me fais confiance entre guillemets à moi-même. Donc après, je peux effectivement faire appel à un agent immobilier, je peux faire appel à des particuliers, mais voilà, je me laisse les champs des possibles pour cette acquisition si je dois en refaire une.
Vous prospectez par vous-même ?
Oui, j'ai des alertes sur différents supports, que ce soit professionnel ou particulier.
À mon agent immobilier. Il est parfait, il est très très bien, très professionnel. J'ai confiance en lui.
Bah, tout simplement à cette dernière, la banque. Je crois que ça reste quand même des professionnels qui sont là pour accompagner des jeunes, comme moi, comme avec ma compagne, sur un projet comme ça. Il y a tout simplement que, pour moi, un agent immobilier, ouais, voilà, une banque, ça va dépendre. Nous, on a un petit peu de retour parce que du coup, on a déjà acquis un fonds de commerce, donc on a une petite expérience de la manière dont faut tourner les choses. Mais je pense que non, j'irai vers une banque, du coup, pour ça.
Bon, intéressant. Alors, déjà, un hommage aux agents immobiliers, c'est pas si fréquent, Mono. Hein, c'est pas fréquent. Vrai. Moi, je pense que cette émission, quand elle sera écoutée par les agents immobiliers, va les réjouir. Parce que c'était sans nuance, en plus. Alors, non, mais c'est un peu normal. L'agent immobilier, il faut le rappeler, est un professionnel très populaire, hein, qui a pignon sur rue, comme on dit. Donc, il y a ce réflexe, tant mieux, de se dire, je vais aller voir quelqu'un qui est un spécialiste des biens. Alors, est-ce que c'est un spécialiste de l'ingénierie, hein, et du montage financier et du conseil? Céline, il y a un spécialiste qui est le conseil en gestion de patrimoine immobilier. Vous n'avez pas été cité, la profession n'a pas été citée.
Un petit mot là-dessus. On a encore du boulot.
Oui, il y a du boulot parce que je ne manque pas une occasion de dire que le conseil en gestion de patrimoine, il n'est pas fait pour les gens riches.
Et c'est ça. C'est alors.
Il est fait pour tout le monde.
On travaille, ouais. On travaille vraiment par le biais de différentes communications depuis de nombreuses années sur différents médias pour faire connaître encore mieux ce métier.
Dans les salons immobiliers, vous êtes présent aussi.
Hein. Oui, exactement. Avec grand plaisir. Mais du coup, et on n'a pas toujours encore trouvé une nouvelle appellation. Donc, ça reste conseil en gestion de patrimoine, mais
le mot patrimoine, c'est un très bon mot, le mot patrimoine. Mais est-ce qu'il n'effraie pas ceux qui n'ont pas un gros patrimoine?
Mais si, mais le problème, c'est que j'en ai pas trouvé d'autres, moi,
ouais, mais
donc
c'est
je lance
sûr.
Un appel à candidature si quelqu'un trouve
donc, en tout cas,
une appellation. Mais c'est pour tout le monde et c'est pour vraiment optimiser dès le moindre euro. J'ai envie de dire, moins on en a, plus il faut l'optimiser.
Bien sûr, dès qu'on a des revenus, il faut en prendre le plus grand soin et le CGP, comme on dit, et la femme ou l'homme de la situation.
Ben, c'est-à-dire qu'on n'a rien à vendre dans la sacoche, donc on va faire des préconisations et en fonction des préconisations, on va y aller ou pas. Et j'ai pas un Pinel à vendre dans la sacoche.
Oui, oui. Le I veut dire indépendant. Hein. Donc, quand on dit CGPI, c'est un point important. Bruno, alors les courtiers en immobilier, en financement, n'ont pas non plus été cités. On a cité les banquiers. Bon, c'est pareil, le banquier, je ne sais pas s'il est populaire, en tout cas, il a pignon sur rue, on est proche de lui. Un petit mot sur le service que vous avez créé, parce que c'est quand même intéressant. Vous êtes dans un univers de quelques grandes enseignes qu'on respecte toutes, hein, qui s'expriment souvent sur Radio Immo, CAFPI est le leader. Vous avez pris l'initiative, là c'est vraiment vous, au sein de CAFPI, de dire qu'il faut un département financement des investisseurs. Est-ce que ça se sait assez que si je ne suis pas un accédant, comme on dit, si je n'achète pas ma résidence principale, que je veux faire un investissement, je peux aller être conseillé par un courtier?
Alors oui, toutes nos agences déjà ont des personnes qui sont un petit peu spécialisées dans le locatif. Mais nous, plus que par rapport aux personnes qui sont interrogées, le commun des mortels, on est plus connu chez les CGP. Donc là, les CGP nous envoient régulièrement leurs clients. D'ailleurs, on traite 90% des clients que l'on traite nous arrivent par des professionnels.
D'accord. Voilà. Et dans une agence, bon, vous êtes à la tête d'une agence spécialisée, donc oui. Elle est en région parisienne, on peut me dire où elle est.
Au siège, à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Au siège, oui. De CAFPI. Il y en a une deuxième ?
Il y en a une deuxième à Marseille.
D'accord. Lorsque je ne suis ni en région parisienne, ni à Marseille, que je suis à Bordeaux ou à Clermont-Ferrand, là, je vais voir une agence CAFPI, on va dire classique, mais je vais trouver quelqu'un qui, si je fais un investissement locatif, va avoir la sensibilité?
Alors, pas forcément. Au niveau de toutes les autres agences CAFPI, vous allez être très bien conseillé pour le financement de la résidence principale. Oui. On a vraiment deux pôles qui sont très spécialisés, c'est à Marseille et à Paris.
Donc, je vais être rerouté si j'ai une problématique particulière?
Vous pouvez être rerouté sur notamment le financement des parts de SCPI, comme le disait
D'accord.
Céline, où c'est très compliqué aujourd'hui de financer.
Un mot sur les banques. Elles ont été citées, là aussi, de façon très laudative. Hein. Moi, mon banquier, j'ai confiance. Si des banquiers nous écoutent, et c'est le cas, ils vont également être heureux. Mais en toute sincérité, est-ce que les banquiers, est-ce que la personne qui s'occupe de mon compte a une culture suffisante? Je vous dis tout de suite que je n'ai pas ce sentiment, moi, hein, dans beaucoup de banques.
Non, alors,
si je veux faire un investissement locatif neuf ou ancien, est-ce que je vais trouver les compétences nécessaires sur les questions de prise en compte des revenus, sur les questions de conseil fiscal, etc.?
Alors, pas forcément. Non, effectivement, le banquier est généraliste.
Oui.
On compare un petit peu à la médecine. On a le banquier qui est vraiment généraliste, qui fait tout, qui peut faire du placement, qui peut faire du financement, qui va faire un tas de choses aujourd'hui de l'immobilier. Hein. Mais pour un vrai conseil sur l'acquisition locative, et encore plus quand c'est du fiscal, le CGPI est quand même beaucoup mieux armé pour pouvoir répondre aux clients.
Bah écoutez, c'est un bel hommage. L'émission n'a pas été préparée, elle n'est pas factice, hein, je l'ai dit. Sur la question du choix des établissements, puisque comme courtier, vous traitez avec l'ensemble des banques de la place, est-ce qu'on peut dire que certaines, on a même le droit de les citer, hein, sont davantage spécialisées sur le financement de l'investissement locatif? Alors, il y a des enseignes qui ont disparu, ou presque, je pense au Crédit Foncier, pour être très clair, hein, qui était un spécialiste. Alors, il est dans le giron des caisses d'épargne. Est-ce qu'il reste cette spécialité au sein des caisses d'épargne? Est-ce qu'il y a d'autres enseignes que vous citeriez? Ça n'empêche, on ne va pas disqualifier les autres, mais est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit tout de suite pour un investisseur?
Alors nous, tout naturellement, on va se coller à la demande du CGPI et de son client, c'est-à-dire aller sur les durées les plus longues. Toutes les banques ne vont pas à 25 ans, donc on va privilégier, oui, la caisse d'épargne, par exemple, qui a quasiment le même produit qu'avait le foncier.
D'accord.
Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais déjà sur 25 ans...
La culture a été récupérée.
Culture a été récupérée. Les chaînes informatiques sont les mêmes, donc on peut faire ce qu'ils faisaient. Et puis on va aller tout naturellement aussi vers des banquiers qui sont un peu plus compréhensifs, c'est-à-dire qui vont, en plus des durées longues, accepter de financer l'intégralité du programme, du produit, c'est-à-dire l'acquisition immobilière plus les frais.
Oui, et aussi, on l'a dit, avec une équation de prise en compte des revenus plus maligne, en quelque sorte.
Tout à fait.
Je voudrais, on est au terme de cette émission, vous remercier l'une et l'autre, Céline Menck, conseillère gestion de patrimoine indépendant et puis membre d'Anacofi Immo, et Bruno Taltavul, qui est le spécialiste du financement des investisseurs chez CAFPI. Merci de votre franchise, de votre sincérité. Je crois qu'on a posé le problème, mais on a apporté des éléments de solution aussi. Merci encore, rendez-vous dans un mois pour Avis de valeur.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.